du 20 décembre 1977. Le moment de conclure, 20 décembre 1977.
Travail dans l'impossible à dire. Est-ce qu'on entend? Il y a un trait qui est là. Sinon, tu as arrêté. Je préférerais qu'on entende, non pas du tout que c'est des choses importantes à dire. Est-ce que ça fonctionne là, le haut-parleur? Non? Bon, peut-être dire est autre chose que parler. L'analysant parle. Il fait de la poésie. Il fait de la poésie quand il arrive. Il y arrive, c'est peu fréquent. Mais il est art. Je coupe parce que je ne veux pas dire il est art. L'analyste lit. Tranche. Ce qu'il dit est coupure, c'est-à-dire participe de l'écriture, à ceci près que pour lui, il équivoque sur l'orthographe. L'écrit différemment, de façon à ce que, de par la grâce de l'orthographe, d'une façon différente d'écrire, il sonne autre chose que ce qui est dit. Que ce qui est dit avec intention de dire, c'est-à-dire consciemment. Pour autant que la conscience aille bien loin. C'est pour ça que je dis que ni dans ce que dit l'analysant, ni dans ce que dit l'analyste, il y a autre chose d'écriture. Elle ne va pas loin, cette conscience. On ne sait pas ce qu'on dit quand on parle. C'est bien pour cela que l'analysant en dit plus qu'il n'en veut dire. L'analyste prend à lire ce qu'il en est de ce qu'il veut dire. Si tant est que l'analyste sache ce que lui-même veut. Il y a beaucoup de jeux au sens de liberté dans tout cela. Ça joue au sens que le mot adore du mot. Tout ça ne me dit pas à moi-même comment j'ai glissé dans le nœud borroméen pour m'en trouver. Pour m'en trouver à l'occasion, serré à la gorge. Il faut dire que le nœud borroméen, c'est ce qui, dans la pensée, fait matière. La matière, c'est ce qu'on casse, là aussi au sens que ce mot a d'ordinaire. Ce qu'on casse, c'est ce qui tient ensemble. Et souple à l'occasion, comme ce qu'on appelle un nœud. Comment ai-je glissé du nœud borroméen à l'imaginé composé de d'or et de là à la pensée de retourner chacun de ces torts, c'est ce qui m'a conduit à des choses qui sont métaphores au naturel, c'est-à-dire que ça colle avec la linguistique pour autant qu'il y en ait une. Mais la métaphore a à être pensée métaphoriquement. L'étoffe de la métaphore, c'est ce qui, dans la pensée, fait matière, ou comme dit Descartes, étendue, autrement dit, corps. La béance est ici comblée comme elle l'était depuis toujours. Le corps ici représenté est fantasme du corps. Le fantasme du corps, c'est l'étendue imaginée par Descartes. Il y a distance entre l'étendue de Descartes et le fantasme. Ici intervient l'analyse qui colore le fantasme de sexualité. Il n'y a pas de rapport sexuel, certes, sauf entre fantasmes. Et le fantasme est à noter avec l'accent que je lui donnais quand je remarquais de la géométrie, que la géométrie est tissée de fantasmes. Et du même coup, toute science, je disais récemment, un machin qui s'appelle, c'est en 4 volumes, The World of Mathematics. Comme vous le voyez, c'est en anglais. Il n'y a pas le moindre monde des mathématiques. Il suffit d'approcher les articles en question. Ça ne suffit pas à faire ce qu'on appelle un monde, je veux dire un monde qui se tienne. Le mystère de ce monde reste absolument entier. Qu'est-ce que veut dire du même coup que le savoir? Le savoir, c'est ce qui nous guide. C'est ce qui fait qu'on a pu traduire le savoir en question par le mot instinct, dont fait partie ce qu'on articule comme la pensée. J'écris comme ça, parce que ça fait équivoque avec l'appui. Quand j'ai dit comme ça l'autre jour que la science n'est rien d'autre qu'un fantasme, qu'un noyau fantasmatique, je suis certain. Mais au sens de suivre, et contrairement à ce que quelqu'un comme ça, dans un article, a espéré, je pense serai suivi sur ce terrain. Ça me semble évident. La science est une futilité qui n'a de foi dans la vie d'aucun, bien qu'elle ait des effets. La télévision, par exemple. Mais ces effets ne tiennent à rien qu'au fantasme qui, écrirais-je comme ça, qui y croit. La science est liée à ce qu'on appelle spécialement pulsion de mort. C'est un fait que la vie continue grâce au fait de la reproduction liée au fantasme. Voilà. L'autre jour, vous ai fait un tort en vous faisant remarquer que c'est un nœud boromir. Je veux dire qu'il y a ici trois éléments. Le tort retourné et puis les deux rondes ficelles. Vous voyez là qui sont des torts également. Et je vous ai fait remarquer que si l'on coupe ce tort, que si on le coupe comme ça, c'est-à-dire, comme je me le suis exprimé, longitudinalement par rapport au temps. Ce n'est pas surprenant qu'on obtienne l'effet de coupure qui est celui du nœud boromir. C'est le contraire qui serait surprenant. C'est la même chose de couper l'âge complète puisque je laisse ce nœud boroméen, j'ai laissé ce nœud boroméen inachevé. C'est la même chose que de couper ça. À ceci près que dans ce cas, la coupure et contrairement à celui-ci, perpendiculaire à ce qu'on appelle le trou. Mais il est bien clair que si les choses se complètent, c'est-à-dire que ceci recolle, à savoir qu'il se passe quelque chose ici comme une jonction, la coupure circulaire laisse le nœud boroméen intact. Et c'est bien la même coupure qui se retrouve là. La même coupure que ce qui résulte de ce que j'ai appelé la coupure longitudinale. La coupure n'est rien que ce qui élimine le nœud borroméen tout entier. C'est de ce fait quelque chose qui est réparable à condition de s'apercevoir que le tore intéressé se recolle si on le traite convenablement retourné. Qu'on peut appeler la suggestion du tort transformé, veut dire du tort que constitue le retournement. La suggestion du tort en remet, si je peux m'exprimer ainsi, sur la solidité du nœud, c'est-à-dire que ce qui se voit, à condition qu'on coupe perpendiculairement au trou. Ce qui se voit, c'est que le tore, à ce moment-là, maintient le nœud borroméen. Il suffit qu'une coupure participe de la coupure dite, comme je viens de m'exprimer, perpendiculaire au trou, pour que ça retienne le nœud. Supposons que la coupure que nous avons faite ici participe de la coupure que nous avons faite ici. C'est-à-dire que quelque chose un tort de cette nature-là. Autrement dit, que ça tourne autour du tort. Je veux dire la coupure. Voilà ce que nous obtenons. Le retournement du tore part aux effets de sa coupure. Le fantasme de la coupure suffit à tenir le nœud borroméen. Pour qu'il y ait fantasme, il faut qu'il y ait tort. L'identification du fantasme au tort est ce qui justifie, si je puis dire, mon imagination du retournement du temps. Alors là, je vais dessiner ce qu'il en est du tort que j'ai appelé l'autre jour Thor à 6. Et imaginez ce qui se déduit de la figuration que je viens de faire. Il y a un couple. Pulsion. Inhibition. Prenons par exemple celui-ci. Pulsion. Inhibition. De la même façon, pour les autres, appelons le couple suivant principe du plaisir inconscient. On voit assez ce fait que l'inconscient est ce savoir qui nous guide, que j'appelais tout à l'heure principe du plaisir. L'intérêt, c'est de s'apercevoir que le tiers veut dire si de fait s'organise de cette façon, non, pardon, les nœuds sont toujours très difficiles à faire, ici, vous avez façon meilleure que celle que j'ai dû rectifier là, de représenter que j'ai appelé principe du plaisir, savoir. Pulsion, inhibition. Principe du plaisir, savoir, et c'est ici que le tiers se présente comme l'accouplement du réel et du fantasme. C'est mettre l'accent sur le fait qu'il n'y a pas de réalité. La réalité n'est constitué que par le fantasme. Et le fantasme est aussi bien ce qui donne matière à la poésie. C'est-à-dire que tout notre développement de science est quelque chose qui, on ne sait pas par quelle voie, émerge cette irruption du fait de ce qu'on appelle rapport sexuel. Pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose qui fonctionne comme science? C'est la poésie. L'aspersion de ce world of mathématiques m'en a convaincu. Il y a quelque chose qui arrive à passer par l'intermédiaire de ce qui se réduit dans l'espèce humaine
au rapport sexuel.
Qu'est-ce qui se réduit au rapport sexuel dans l'espèce humaine? C'est quelque chose qui nous rend très difficile la saisie de ce qu'il en est des animaux. Est-ce que les animaux savent compter? Nous n'en avons pas de preuves, ce qui s'appelle des preuves sensibles.
Tout part de la numération, pour ce qu'il en est de la science.
Quoi qu'il en soit, même ce qu'il en est de cette pratique,
c'est aussi bien de la poésie qui part de la pratique qui s'appelle l'analyse. Pourquoi
est-ce qu'un nommé Freud
a réussi dans sa poésie à lui, qui veut dire à instaurer un art analytique?
C'est ce qui reste tout à fait douteux.
Pourquoi est-ce qu'on se souvient de certains hommes qui ont réussi?
Ça ne veut pas dire que ce qu'ils ont réussi soit valable.
Ce que je fais là, comme l'a remarqué quelqu'un de bon sens, qui est un douceur,
c'est de la philosophie. Mais
la philosophie, c'est tout ce que nous savons faire.
Les nœuds borroméens, c'est de la philosophie aussi. C'est de la philosophie que
j'ai manié comme j'ai pu,
en suivant le courant, si je puis dire, le courant qui résulte de la philosophie de Freud.
Le fait d'avoir énoncé le mot d'inconscient, ça n'est rien de plus que de la poésie avec laquelle on fait de l'histoire. Mais l'histoire, comme je le dis quelquefois, l'histoire, c'est l'hystérie.
Freud, s'il a bien senti
ce qu'il en est de l'hystérie,
s'il a fabulé autour de l'hystérie,
ça n'est évidemment que d'un fait d'histoire.
Marx était également un poète. Un poète qui a l'avantage d'avoir réussi à faire un mouvement politique.
D'ailleurs, s'il qualifie son matérialisme d'historique, ce n'est certainement pas
sans intention. Le matérialisme historique,
c'est ce qui s'incarne dans l'histoire.
Tout ce que je viens d'énoncer concernant l'étoffe qui constitue la pensée n'est pas autre chose
que dire exactement les choses de la même façon. Ce qu'on peut dire de Freud,
c'est qu'il a situé les choses d'une façon telle
que ça erre ici. Mais ce n'est pas sûr tout ce dont il s'agit. C'est une composition. Une composition telle que j'ai été amené à pour rendre tout ça cohérent,
à donner la note d'un certain rapport entre la pulsion et l'inhibition, le principe du plaisir et le savoir inconscient, bien entendu. Faites bien attention que c'est ici. Et ceci, c'est le tiers élément. Je veux dire que c'est là qu'il y a le fantasme et ce qui se trouve que j'ai désigné du réel. Mais vraiment, pas trouvé mieux que cette façon d'imager métaphoriquement ce dont il s'agit dans la doctrine de Freud. Ce qui me semble
matériellement abusif, c'est d'avoir imputé tellement de matière au sexe. Je sais bien qu'il y a les hormones, les hormones font partie de la science, mais il est tout à fait clair que c'est là le point le plus épais et qu'il y a là nulle transparence. Bien, j'enlève cela.
Voilà.